Bienvenue dans le monde des PD libertaires sur PDRama.
Des bâtons dans le cul aux homos. Pourquoi ? Comme ça, ils comprendront que ça fait mal. Et que ça... Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Les homos, c'est que des PD. Ça restera des PD. Des PD, des PD, des PD, des PD. Que des PD. Dans le cul.
Concession en concession, nous ne cédions sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le mariage et sur les enfants. Le mariage, les enfants. L'essentiel. L'essentiel. Le mariage.
Des PD.
Les enfants.
Des PD. Bon, vous avez le comportement normal, c'est-à-dire pratiqué par la grande majorité des personnes, et vous avez un comportement qui dévie par rapport à la norme. Normal. Majorité. La norme de la nature, je crois que ça c'est assez clair, et ensuite la norme de l'intérêt de la société. La nature. La norme.
Les homos c'est que des PD. Des PD. Que des PD.
L'essentiel. 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 L'essentiel.
L'intérêt de la société, c'est qu'il y ait des familles les plus solides possibles, qui élèvent des enfants, qui les élèvent bien, et que manifestement, l'homosexualité s'écarte de ce modèle-là. Point. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'agressivité dans ce que je dis. Bon, maintenant, s'ils refusent absolument ce mot-là, on peut dire anormal, par exemple. Anormal.
L'essentiel.
Normal. Majorité. Nature. Point. L'intérêt de la société, c'est qu'il y ait des familles les plus solides possibles, qui élèvent des
PD,
les élèvent bien. La norme.
C'est que des PD. Des PD. que des PD.
L'essentiel.
Normal. Majorité. Elle est pure. La norme.
C'est d'un goût, hein. Elle va finir par me foutre ma fête en l'air, cette idiote.
Pédérama ? Pédérama !
Et voilà, bonsoir, bienvenue à Pédérama, l'émission des folles anarchistes sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni pub. Pour réagir en direct, vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40. Ce soir, on se lance dans les invités en direct, deux membres du conseil d'administration des UEH, ou Université d'été euroméditerranéenne des homosexualités, Bruno et Laurence. Bonsoir.
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 Oh, ils sont sages et tout. À la régie, nous avons Princesse Léa Chacha, qui a aussi choisi les pauses musicales de ce soir.
Oui, bien sûr, comme d'habitude.
C'était quoi lorsqu'on a entendu?
C'était quoi? C'était
Frikita Records.
Frikita Records, voilà. Je sais pas. C'était les homos, c'est que des PD, voilà.
Voilà.
C'est ça.
Et tu l'as choisi pourquoi?
Ben parce que Frikita est une amie et qu'on l'aime beaucoup.
Nous avons aussi en régie, en aide technique, Ursula from Las Vegas. Ursula Choucroune dit from Las Vegas. C'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais, y a pas de problème.
Elle a pas de micro, elle peut pas parler. D'ailleurs, ce serait bien s'il y a des appels, comme ça tu pourras décrocher. Merci. Et en plateau, nous avons aussi la charmante, l'éblouissante Valentina Viodorovna qui n'est toujours pas arrivée. Elle devait parler à son psy plus longuement. Donc, on va commencer tous les trois. Donc, une première question. Comment êtes-vous arrivé au CA des UEH? Votre parcours associatif et militant à chacune. Alors, qui veut commencer?
Bon, bah, je vais m'y coller. Moi, je suis arrivé en fait aux UEH. J'ai découvert les UEH en 2001 et je suis venu plusieurs fois. Et puis, lors des UEH 2004, à la fin des UEH, j'ai décidé d'intégrer l'équipe d'organisation. Voilà. Et avant, j'avais été militant dans ce qui s'appelait à l'époque la Gay Pride, puis la Lesbian Gay Pride, qu'organisait l'association qu'organisait la Marche des Fiertés de maintenant. Et puis, je suis aussi membre de l'association Les Panthères Roses. Voilà.
Et moi, je suis en fait à l'origine membre de l'association Mixité, qui est un mouvement mixte pour l'égalité des sexes et des sexualités. Et c'est à Mixité que j'ai entendu parler des UEH pour la première fois, avec beaucoup d'enthousiasme. J'y suis allée en 2002 pour la première fois. Et en 2003, quand il y a eu les assises des UEH, j'ai participé à la reconstruction, à des, tas de des moments de réflexion sur les UEH. Et j'ai décidé à ce moment-là de m'investir davantage.
Oui, parce que on va retracer un peu l'historique des UEH pour tous les gens qui ne connaissent pas, pour toute la Paris qui nous écoute. Donc ça a commencé au siècle dernier, c'est ça?
Ça a commencé en 1979, donc ouais. À une époque où l'homosexualité était encore interdite, un délit. Et donc c'est à l'origine, je crois, Jacques Fortin qui a remonté les UEH, enfin qui a créé les UEH. Mmh. Ça a duré jusqu'en 82 ou 83 par là. Et puis après, il y a eu une très longue pause due à différentes choses, mais en particulier à la maladie et au SIDA. puisque ça a quand même affecté beaucoup, c'est un moindre mot, les homosexuels en général. Et en 99, les UH ont été remontés par Jacques Fortin, qui était encore là, et d'autres personnes qui faisaient partie de la première équipe. Et puis, petit à petit, ça a continué. Il y a eu une pause, donc, en 2003, pour réfléchir un petit peu à l'équipe, puisque c'est une très lourde organisation. On en reparlera, mais du coup, l'équipe s'essoufflait un petit peu. Et en 2003, il y a eu une pause. Les UH, qui, au départ, se déroulent sur une semaine, ne se sont déroulés que pendant 3 jours. Et on a fait ce qu'on a appelé les assises. Et à partir de là, une nouvelle équipe s'est montée. Et on a continué à lancer les UH. Donc, c'est toujours au mois de juillet. Et cette année, c'est du 17 au 24 juillet. Tout à Marseille.
On martèlera les dates.
Ouais, régulièrement.
Ça roule. Et donc, ça se déroule... Ça se retrouve dans quel lieu? Est-ce que dès le départ, parce que moi j'ai entendu qu'au début c'était, ça se passait dans un camping?
Non, au début ça s'est passé en fait dans les locaux de l'université de droit à Marseille. C'était dans Marseille que c'était organisé et puis au fur et à mesure des années, ils ont obtenu en tout cas vers la fin, il me semble donc 82 ou 83, le GLH local parce que c'était le GLH en fait qui avait organisé donc ça, le GLH de Marseille, le groupe de libération homosexuelle, a obtenu que ça se passe à l'école des Beaux-Arts. Sur le campus de Lumini, qui est une université qui est à la frontière de Marseille et qui donne sur les calanques en fait de Sugiton. Et depuis, ça se passe toujours là. Mais j'ai pas dans le camping, non, j'ai pas.
Ah bon, bah, il y a des rumeurs.
C'est les
j'ai jamais été dans un.
Non, c'est des fantasmes.
Oui, on demandera après les UH rêvés, les fantasmes du bordel. Saluons notre Valentina Viadorovna qui vient d'arriver discrètement sans se faire remarquer. Bonsoir.
Bonsoir.
On a juste fait l'historique, c'est bien?
Très bien.
Alors, donc, je continue. Donc, en gros, votre rôle dans l'équipe des UH. Pour qu'on sache qui vous êtes.
Il n'y a pas de rôle défini. En tout cas, c'est un collectif d'individus qui se retrouvent pour préparer les UH. Et après, en fonction des envies qu'on a... chacune les unes les autres, on s'investit plus ou moins sur des sujets qui nous tiennent plus à cœur ou dans lesquels sur lesquels on a plus de compétences. Enfin, moi je le dirais comme ça. Je sais pas.
Mm-hmm. Oui, il n'y a pas de rôle a priori. Voilà, c'est. Enfin, notre envie, c'est vraiment de fonctionner de façon collective et ça marche de mieux en mieux. Et à la fois au sein du CA et au moment de la semaine, de fonctionner de façon autogérée. Ce qui marche plus ou moins bien, mais ça aussi, on le martèlera. L'autogestion, c'est très important pour nous.
Ah oui, c'est bien que le CR fonctionne aussi comme ça. Ensuite, financièrement, vous vous en sortez comment?
Alors financièrement, il y a d'abord ce que les participantes apportent pour le fonctionnement de la semaine, qui est de l'ordre d'à peu près de 20 000 euros au total.
Avec les adhésions
Du fonctionnement, on ne parle pas de l'hébergement qui est payé, directement au CROUS et qui est l'argent du... Enfin voilà, c'est les tarifs du CROUS, donc ça revient pas ça passe pas par l'association. Et après, il y a des subventions. Une subvention du Conseil régional PACA qui est de l'ordre de 20 000 euros et une subvention du Conseil général des Bouches-du-Rhône qui est aussi de l'ordre de 20 000 euros. Donc, ça fait un budget à peu près de 60 000 euros. Et à côté de ça, on a en aide logistique, mais très importante, l'école des Beaux-Arts qui est mise à notre disposition par la ville de Marseille, ainsi qu'un certain nombre de matériel... des plantes, de matériel sono, tout ça qui nous est prêté par la ville de Marseille le temps des UH.
Ok. Donc, vous avez des salariés? Parce que pour le moment, il y en a eu.
Non, on n'a plus de salariés. Et ça fait partie justement d'un des changements depuis 2003. Mmh. Il y a eu des salariés, il y avait même un salarié à l'année. Mmh. Et puis maintenant, on veut fonctionner justement complètement sur la base du bénévolat, de l'investissement personnel et collectif. Et du coup, qui dit salarié dit patron pour gérer le salarié. Ouais. Et on a nettement refusé de rentrer dans ce schéma-là.
Pas de CPE, pas de CDI.
Pas de CPE, pas de CNE, rien du tout.
C'est bien. Et dans les UH, le nom n'évoque que les homosexuels. Qu'en est-il des transgenres?
Des Alors, le nom, c'est le nom historique, parce que les UEH, l'intérêt de garder le nom, enfin, c'est une question qui s'est posée à plusieurs moments, notamment lors des assises, mais Laurence le dira, moi, j'y étais pas aux assises, mais on a essayé de trouver un compromis qui est que sur le logo qui a été réalisé par Tom de Pékin,
avec le doigt et l'ongle, là.
Voilà, c'est donc des rencontres lesbiques et transqueer qui donnent vraiment pour nous l'appellation et de ce qu'on voudrait que ce soit, et en même temps, on maintient le nom Université d'été des homosexualités, enfin, Eurométernienne des homosexualités, d'abord parce que l'aspect eurométernien, c'est important qu'on le garde au vu des subventions publiques qu'on reçoit aujourd'hui. Si on gommait cet aspect-là, je suis pas sûr qu'on aurait l'argent. Le fait qu'on soit une université d'été, ça nous aide aussi pour faire venir des délégations, notamment de pays étrangers, parce que quand on veut faire venir des gens, par exemple cette année, on va faire venir des gens du Cameroun. Si on marque pour la demande de visa que c'est pour les universités d'été des homosexualités, c'est sûr qu'ils viendront jamais. Le fait qu'on s'appelle université d'été avec soutenu par des financements publics, ça nous aide pour avoir aussi faire venir ces gens-là et qu'ils obtiennent des visas pour rentrer en France, parce que le plus dur c'est pas de sortir du Cameroun, mais c'est de rentrer en France. Ouais. Et après, ça aide aussi des fois des chercheurs qui travaillent dans d'autres universités de pouvoir avoir un voyage qui est financé dans le cadre de leur recherche du fait qu'on a une appellation universitaire.
D'accord.
Donc en fait, petit à petit, on aimerait bien qu'il y ait à la fois UEH, parce que, enfin, pour toutes les raisons que vient d'évoquer Bruno, et en même temps les rencontres lesbiques, gays, trans, queer, parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut être maintenant.
Quand on est sur place une fois arrivé.
Ouais, n'est-ce pas?
Et oui, parce que forcément, là en gros, on l'a toute faite. Hein, donc ensuite, et donc pensant de cette semaine, tout le monde se mélange, mais y a-t-il des ateliers non mixtes?
Il y a des ateliers non mixtes. Aïe, aïe, aïe. Il y a des ateliers non mixtes lesbiens. C'est nouveau, enfin c'est récent en tout cas. Ça a donné lieu à des débats à la fois au sein du CA, des UH, et puis pendant la semaine, on est encore fréquemment interpellé là-dessus. Alors il y a des ateliers non mixtes masculins, enfin PD, de fait, parce qu'il y a quand même encore une majorité de PD aux UH. Hein.
Ah, oui.
Il y a à peu près 30% de lesbiennes. Ce qui veut dire qu'il y a deux fois plus d'hommes que de femmes. Et du coup, de fait, enfin, les ateliers massage, par exemple, sont posés comme non mixtes, mais le sont aussi, enfin, non seulement les organisateurs des ateliers de massage animent des ateliers non mixtes masculins, et en plus, souvent, il y a des moments non mixtes comme ça, enfin, même au bar où moi, j'ai vu fréquemment des En arrivant dans des groupes, bah, ils étaient non mixtes, PD, et bon, voilà. Mais les PD, ils n'ont pas besoin de poser la mixité pour se retrouver en non mixité. La non mixité, pardon, pour se retrouver en non mixité. Tandis que les lesbiennes, oui. Donc, on a, à un moment, dit, oui, il y aura des ateliers non mixtes lesbiens. Et il y a eu, en particulier, des ateliers non mixtes sur la santé lesbienne, avec la prévention en matière de sexualité aussi. Voilà, il y a petit à petit de plus en plus d'ateliers non mixtes lesbiens qui apparaissent aux UH.
Oui,
et pour nous, c'est très important.
Ouais. Enfin, parce que la fréquentation des gouines augmente ou c'est par
pas nécessairement, c'est assez stable.
Ouais.
Mais en fait, c'est, je pense, un besoin des lesbiennes et des gouines de se retrouver entre elles ou en tout cas, entre elles. Et puis, c'est petit à petit, je pense que ça peut permettre aussi à un autre public de lesbiennes de venir.
Oui, bah oui. Ouais.
Voilà, et ça crée, enfin bon, après sur la non-mixité, on pourrait dire des tas de choses, mais ça crée un espace hors de la confrontation et du rapport de pouvoir homme-femme.
Moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que s'il y a bien ces espaces à un moment non-mixtes et que je pense qu'ils sont nécessaires parce qu'il y a une demande, et que sur certains sujets, en plus, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se dire qu'en non-mixité, enfin, qui ne se disent pas de la même façon entre PD et Gwyn, c'est aussi quand même l'endroit, à mon avis, le plus mixte qui existe comme lieu par rapport à ce qui existe dans la communauté. Enfin, je veux dire, finalement, il y a une non-mixité quasiment absolue dans les lieux de commerciaux qui existent sur Paris, pour ceux que je connais.
Sauf les soirées alternatives.
Sauf, voilà, mais sauf les soirées alternatives, qui sont rares. C'est-à-dire que c'est comme la plug en plus grand. Donc, c'est une grande plug pendant l'été. C'est une plug
d'été. C'est dans l'autre sens. Hein, c'est la plug a voulu copier les UEH.
Ouais, très bien, si on s'inspire les unes les autres, oui, tant mieux. Hein, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est important, parce que c'est quand même un endroit où il y a une rencontre entre intergénérationnelle qui se fait pas ailleurs. Enfin, on sait bien que dès qu'on a plus de 30 ans et qu'on n'est pas... on fait pas 1m80 et qu'on est blond blanc avec habillé Cherouti, on rentre pas dans certains bars ou en tout cas on n'y va pas. Et je trouve qu'il y a vraiment un mélange de styles, de genres aux UH, à ces rencontres lesbiques et trans queer qu'on trouve pas ailleurs, en tout cas qu'on trouve pas sur Paris, à part quelques lieux alternatifs, encore une fois.
Il y a peu de modasses quand même.
Ah, il y en a quelques-unes.
Au queer, il y en a un peu.
Il y en a quelques-unes. Oh, mais bon, queer, du coup, c'est fréquentable.
Aux UH.
C'est fréquentable. Bah, c'est pas... Mais il y en a quand même que tu te dis comment elles sont faites pour arriver là.
Elles se sont perdues.
Je sais pas.
J'avais une question perfide que vous avez peut-être déjà abordée au début quand j'étais pas là, mais même
pas grave,
si je connais la réponse. Politiquement, quel parti se cache derrière les UEH?
Aucun.
On n'a pas vu de gens de Guélib l'année dernière. Est-ce que vous allez
justement,
les inviter?
J'ai une question, ma question suivante, c'est y a-t-il des limites au mélange, en particulier pour Flag et On est là, assaut homo de droite?
C'est-à-dire qu'on ne demande pas... On ne demande pas aux gens qui s'inscrivent viennent d'un parti. On leur demande des fois si elles sont d'une association, parce que ça c'est intéressant pour voir aussi un peu quelles sont les associations ou quelles militantes d'associatives viennent de ces rencontres lesbiques et transqueer. Mais en revanche, c'est vrai qu'on leur demande pas si elles sont du Flag, de Guélib, je sais pas quoi. Ce qui est l'ambiance et l'esprit des rencontres, à mon avis, préside quand même beaucoup à qui y vient. Et quand on va sur le site et qu'on voit ce qui se passe, dans quel état d'esprit sont faites les rencontres, à mon avis, de fait...
Théoriquement, ça doit leur faire peur à la base.
Non, mais enfin, on voudrait pas qu'il y ait un groupe d'extrême droite qui vienne et surtout qui prenne d'assaut les UH. Maintenant, on est prêt à discuter.
Bel exercice de langue de bois. C'est des administratifs.
Non, mais après, oui, c'est enfin, mais oui, dès qu'on prononce certains mots, ça met les étiquettes. Oui. Enfin, donc oui, c'est un lieu alternatif, autogéré.
Et donc, vu qu'on est dans les trucs limites, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre participation au Rainbow Attitude
On va essayer.
L'année dernière.
On va essayer.
Parce que ça nous avait fait
drôle. Faut peut-être rappeler pour les auditeurs ce qu'est le Rainbow Attitude. C'est un salon désormais annuel depuis...
C'est fini. Hein.
2 ans, 3 ans, non, maintenant?
Oui, maintenant il est arrêté.
Il n'y en aura plus. Bon, qui était le salon du commerce homosexuel avec tout un tas de représentants, comme le salon de l'agriculture, mais dans une autre thématique.
Alors d'abord, il faut savoir que ça a créé débat au sein du conseil d'administration et qu'on n'est pas toutes tombées d'accord et tous tombés d'accord, même si on s'est rangé à ce qui s'est imposé, enfin à la majorité quoi. Donc effectivement, les UH en tant que tels ont participé ou ont eu un stand à Rainbow Attitude. L'idée c'était de prendre des contacts tout simplement et d'essayer de profiter de ce salon tel qu'il soit pour avoir des contacts, pour rencontrer des gens, pour faire connaître les UH. Voilà. Sachant qu'apparemment, il y a même des lesbiennes qui vont au Rainbow Attitude. Et enfin, je dis ça comme ça, mais parce qu'en fait, notre souci, c'est aussi de varier la population des UH. Et du coup, on a vraiment envie de rencontrer des trans et des lesbiennes, des gwyn, enfin, qu'on ne toucherait pas par ailleurs. Et Rainbow Attitude, on n'a pas voulu se fermer la porte. Voilà.
Ok. Donc, en fait, est-ce que c'est un club médomo?
On a répondu déjà tout à l'heure. Si c'est une plug d'été, c'est pas un club.
Mais tout le monde ne connaît pas la plug.
Gens, parce que c'est
ah oui, la plug, c'est pas connu encore.
Oui, il y a les croisières gays. Est-ce que les UH, ça peut intéresser les gens qui ont pas d'argent pour aller sur une croisière?
C'est pas un truc gay. Donc déjà, si ça s'appelle lesbique et transqueer, c'est les mots choisis montrent ce que c'est un peu. Et puis c'est l'idée d'autogestion fait que c'est pas, on vient pas, on paye pas une prestation. On se retrouve dans un espace commun et on essaye de construire quelque chose ensemble pendant 7 jours. C'est un petit peu ça. Donc, c'est à mon avis vraiment l'anti-club med dans ce sens-là, surtout d'achat de prestations. L'idée vraiment, c'est que sur place, chacune se sente co-actrice de l'événement. Donc, le bar qui fonctionne aux rencontres, c'est un bar auquel on doit s'inscrire pour animer le bar, sinon il n'y a pas de bar. Si on veut que les toilettes soient propres, faut qu'on fasse le ménage et il y a la possibilité d'échapper à un self en utilisant les cuisines qui sont mises à disposition dans les hébergements du Crous, et ça veut dire aussi que chacun doit s'occuper de faire sa cuisine avec son et de s'organiser sans que le CA dise qui fait quoi, comment, à quelle heure on mange. Et voilà, en tout cas pour une partie de la réponse, je sais pas, Laurence.
Ouais, on est confronté à des gens hein, qui viennent et qui disent on a payé, donc maintenant on voudrait que la lumière fonctionne dans notre chambre et qu'ils viennent râler, etc. Enfin, sur ce mode-là, ou certaines qui nous disent ah bah c'est super, j'ai pu profiter des calanques pendant une semaine. A priori, c'est pas le but. Et on aimerait bien que les personnes qui viennent aux UEH l'entendent, en aient conscience, s'investissent. On a parlé beaucoup des personnes investies dans des associations ou des partis, mais il y a des individus aussi qui ne sont pas du tout militants.
Il y en a beaucoup.
Et chacun est bienvenu, peut participer, que ce soit effectivement en faisant le ménage ou en animant un atelier. Il y a des ateliers qui se montent aussi au cours de la semaine, de diverses façons, enfin, en aidant à l'accueil, en tenant le bar, etc., quoi. Toute idée est bienvenue.
Une des particularités, d'ailleurs, je voulais juste en profiter pour lancer un appel, c'est que si les rencontres commencent le 17 juillet, il y a possibilité pour celles qui seraient disponibles avant et qui voudraient donner un coup de main pour aider à la préparation des salles et puis de l'accueil de tout le monde, de venir quelques jours avant, ce qui est en tout cas à partir du 14 ou 15 juillet, mais... Et ça, c'est bien, parce que ça aussi, tous les ans, l'année dernière, il y avait une trente-quarantaine de personnes qui étaient venues avant, et ça aide à préparer, à mettre en place tout pour que les gens soient bien accueillis, mais aussi, ça aide à ce qu'il y ait un état d'esprit qui commence collectif à se créer, et ça permet que qu'on passe une bonne semaine ensemble.
On sera là.
Avec nos petites pelles et nos balais. Bien. J'avais une question plus sur les thématiques de santé aux UH, parce que c'est là-dessus que j'ai pour habitude d'emmerder les gens. Je voulais savoir comment on... C'est pas seulement vous qui pouvez répondre à ça, parce qu'on est un peu tous concernés sur là-dessus. Comment vous gérez et comment on peut gérer la difficulté d'intégrer des associations qui s'intéressent à les questions de santé et qui, dans un cadre comme les UH avec le projet politique communautaire qu'il y a derrière, se revendiquent d'être des associations non identitaires. Moi, j'ai été surpris, pour préciser l'exemple, l'année dernière, il y avait notamment une association santé très présente, Aide et Act Up, principalement sur les questions VIH, ce qui n'est pas le cas pour Act Up, mais qui est le cas pour Aide, qui revendique et qui a revendiqué aussi pendant la semaine des UH l'an passé, le fait qu'elle n'était pas là pour avoir des positions identitaires et qu'elle n'était pas une structure associative identitaire par rapport à l'identité transpédéguine d'une manière générale. Moi, ça m'a posé pas mal de questions. On sait que Aide, y compris en dehors des UH, a cette position-là. En même temps, pour le coup, dans la perspective de la semaine comme ça, où on fait un travail communautaire et où la base est quand même sur cet esprit-là, est-ce que ça, on se prend pas les pieds dans le tapis de vouloir aborder les questions de santé avec cette espèce de truc qui est un peu décalé au départ?
Oui. Je suis d'accord, mais je dirais pas que c'est la même chose, parce que la présence de Aide, en plus spécifiquement l'année dernière, c'était quand même ce qui avait été très intéressant aussi. C'était ils ont proposé qu'ils font une formation pour leurs volontaires tous les mois de juillet, et ils ont proposé que cette année cette formation qui se fait pour des volontaires qui vont intervenir spécifiquement au milieu gay. Donc même si c'est pas une démarche identitaire ou communautaire, pour le coup, pour des gens qui veulent après intervenir spécifiquement dans le milieu gay, c'était quand même intéressant de pouvoir justement faire cette formation dans le cadre des UEH, avoir une rencontre pour quand même que ce soit pas simplement une question abstraite, une approche abstraite, mais qui voit à peu près ce que c'était aussi une partie de la communauté, parce que bon, les UEH c'est pas toute la communauté, mais enfin c'en est une partie. Et de ce point de vue là, moi je trouve que leur présence elle est intéressante, et on les prend comme ils sont, c'est-à-dire que après, on partage pas tous l'approche. Enfin, moi, je comprends les réserves, mais ce qui me semble important, c'est les liens qui existent entre la communauté depuis depuis l'existence de Aide en 85 jusqu'à aujourd'hui. Après, ils veulent pas effectivement, ils se présentent pas comme une asso ni identitaire ni communautaire. Act Up, qui se présente comme une asso identitaire et communautaire, n'est pas toujours une association avec qui les relations sont toujours évidentes, vont de soi, et leur intégration sur place
n'est pas toujours plus simple.
Et l'année dernière, il y avait même une association qui était présente sur la prévention. Ils font de la prévention en direction des sourds, qui est une association qui est basée sur Marseille, qui elle, pour le coup, n'est absolument pas identitaire, mais voulait être là pendant les UH en disant c'est important, puisqu'on est sur Marseille, qu'on soit présent, parce qu'on aimerait justement davantage travailler avec la population LGBT, parce qu'ils parlent comme ça, avec la population LGBT, des sourds. Et c'est vrai qu'une des particularités aussi des rencontres lesbiques et trans queer, c'est qu'il y a des sourds qui viennent, et ce qui n'est pas pareil, on ne les voit pas beaucoup dans la communauté. Donc je trouve toutes ces démarches, moi ça me semble quand même intéressant, mais après ça ne règle pas la question, c'est vrai. Alors on essaye, ce qu'on a essayé cette année, Jean-Christophe, qui est un des membres de l'équipe d'organisation, a fait une réunion avec plusieurs assos de santé un peu en amont sur Paris pour essayer de voir, à réfléchir sur tout ça. Mais il y a eu une première réunion, ça en appellera d'autres, il n'y avait pas tout le monde en plus. Donc voilà, on va essayer d'y travailler un peu plus en amont, mais c'est parti, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'équipe, après c'est la volonté de chacun d'essayer.
Non, c'est la difficulté.
Je sais pas si je réponds bien.
Si, mais ça illustre bien en fait le problème sur lequel tout le monde a du pouvoir et en même temps personne ne peut faire grand chose si on n'y fait rien. D'arriver à être dans un travail de communautaire aussi sur les questions de santé, ça veut dire qu'à un moment donné on compte pas sur les autres pour le faire, mais on se met au boulot. Et donc dans cet esprit-là, on peut annoncer qu'on va essayer de faire un atelier mixte avec animé conjointement par un PD et une lesbienne pour travailler sur les thématiques de gynéco-procto et faire un essai de trucs comme ça partagés où on croise regard croisé sur les problèmes anatomiques et gynécologiques. Voilà, mais non, c'est pas simple.
Sur ce, une petite pause musicale.
C'est l'heure.
The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, been there, done that, got all the t-shirts.
Derrière. C'est parce que comme ça tu peux imaginer que je suis quelqu'un d'autre.
Satan,
ton cul est gigantesque et tout rouge. Qui je peux imaginer que tu es, Liza Minnelli?
C'était un petit morceau de... C'était qui ça, Léo?
C'était DAF. C'est un groupe allemand des années 80. Ils font de la musique électronique, minimaliste, voilà. C'est deux folles qui font ça. Et c'était une chanson sur... c'est un petit conte de fées entre une histoire sur une histoire d'amour entre un prince et un voleur, voilà. C'est tout. Voilà.
Très bien, merci. Laurence, tu voulais préciser
Je voulais ajouter que la santé, c'est enfin la santé et la sexualité concernent aussi les lesbiennes aux UEH. Donc en écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un atelier santé, enfin safe sex lesbien qui s'est monté ou qui a été animé l'année dernière et cette année. En 2004 et 2005 et qui va être encore là, qui va continuer en 2006 avec donc une sensibilisation des lesbiennes et par écho aussi des PD à la sexualité, aux problèmes de santé en matière de sexualité lesbienne. Et puis, comme souvent dans les lieux communautaires, on a des préservatifs. Là, on s'efforce aux UH d'avoir aussi des digues dentaires, des gants, enfin donc un matériel qui s'adresse pas seulement aux lesbiennes, mais au départ aux lesbiennes. Et il y a en particulier le CRIPS qui est investi là-dedans, donc Clotilde du CRIPS, et puis Faina aussi, qui ne fait pas partie particulièrement d'une association, mais qui a permis de lancer l'atelier sur le safe sex lesbien.
Voilà. C'est bien.
Ok, merci. Alors maintenant, des petites questions pratiques de Coco, qui est
l'animatrice, pas là,
mais qui est retenue pour des occupations. Et donc, elle voulait savoir, elle est jamais venue, donc c'est bien, ça fait la candide. Vous savez, peut-on se laver aux UEH?
Oui.
Comme on veut, hein.
On doit.
C'est au choix, c'est libre. C'est autogéré.
C'est possible.
Y a-t-il un service de sécu autogéré?
Nous, le sécuritaire, c'est pas trop notre truc, donc voilà.
D'accord, il y en a pas.
Mais bon, de toute façon, on est dans un établissement public, donc il y a effectivement une surveillance qui est assurée par l'établissement.
Il y a un gardien dans une guérite.
Oui, elle va venir cette année, elle va découvrir. Faut-il apporter un sac de couchage?
Non, il y a des couvertures. On loge dans les bâtiments du CROUS, donc on a des chambres universitaires à notre disposition qui sont au tarif CROUS, même s'il est élevé, c'est autour de 16 euros la nuit, en tarif plein. Il y a des douches, des cuisines et un lit avec des draps et des couvertures.
Et des toutes petites cloisons.
Oui. Très fines. Bah oui. Et des portes qui
s'ouvrent. C'est la fac.
Oui, c'est l'aspect collectif.
Avec des clés.
On partage.
Y a-t-il une cantine et en demi-pension?
Il y a une cantine quand on veut. C'est pas une cantine d'ailleurs, c'est un self. Et cette année, on va peut-être travailler avec le restaurant du Crous, qui permet d'avoir des tarifs plus avantageux. Puis on préfère travailler avec le service public qu'avec le privé. Ça, c'est aussi un état d'esprit.
Et sinon, il y a un self qui offre des repas autour de 6 euros. Voilà, donc c'est pas donné, mais c'est possible.
Mais vous pouvez aussi trouver de la bouffe végétarienne, autogérée, solidaire.
À chaque étage.
Aux bons étages.
Voilà. En vous investissant, en apportant voilà.
Enfin, non, vous
un
pouvez
minimum
pas trouver,
de...
Vous pouvez la faire, pouvez faire participer, oui. Et parce que voilà, et si on commence à dire aux gens qu'on peut trouver, alors là...
Non, il faut s'investir, il faut apporter ses couverts.
Carton, et puis alors tu mets ton petit billet, et puis ça y est, tu peux venir sous la table,
non.
Tu mets tes pieds tous les
tu
soirs.
Tu fais
non,
le manger.
Ça marche pas, après on te tape dessus. On a vu ce que ça donnait l'année dernière. Et donc il demande aussi, y a-t-il des examens de fin d'année? À la fin de la semaine.
Parce que ça s'appelle l'université?
Voilà.
Non, pas du
y
tout.
Y a rien.
En fait, l'université au départ, c'est par dérision par rapport aux universités des États-Unis. Voilà. D'où le terme d'université.
Ah. Bon, c'était les questions d'idiotes. C'est pas moi pour une fois. Hein, qui... Alors moi j'avais quelques questions pratiques. Comment organiser un atelier aux universités?
Ça c'est pas idiot. Hein.
Ah, t'as
pas
vu,
du
là,
tout.
Hein. C'est moi tout de suite.
Donc il suffit d'aller sur le site uuh.org.
Si on a internet.
Et il y a.
Si on a internet.
Voilà. Après, on télécharge une fiche projet qui est toute prête et on peut la renvoyer par internet ou par courrier. Si des fois on n'a pas internet, ce qui arrive pour 50% quand même des Françaises aujourd'hui, on va dans un cybercafé ou dans un point subventionné par la ville de Paris, c'est gratuit.
Appelez le studio, on transmettra.
Et une question peut-être plus personnelle, comment rentrer dans le CA?
Ah, c'est facile, hein, il y a toujours de la place. À la fin de chaque université,
ça
il y a des gens qui s'en vont parce que on a, c'est des mandats de 3 ans et il y en a qui font 3 ans, mais il y en a qui font moins aussi. Et donc, il y a un appel à candidature et on peut déjà dire de toute façon maintenant que, comme il y a des, on sait déjà que certaines d'entre nous ne seront plus là l'année prochaine, les personnes qui connaissent ou qui sont intéressées ou qui voudraient être intéressées sont les bienvenues.
D'autant qu'on est en fait entre 10 et 15 à organiser véritablement les UEH en amont pendant toute l'année, puisqu'il y a 25 personnes au CA officiellement, mais il y en a une quinzaine qui s'investissent et qui travaillent réellement. Du coup, enfin toute personne est bienvenue, vraiment. Okay. On a besoin de bras, de têtes, de pieds, de tout.
Est-ce que c'est le dernier, parce que plein de gens, je suis sûr, se posent la question, est-ce que c'est le dernier endroit où on peut rêver d'une sexualité collective et libérée ? Pendant ses vacances.
Je connais pas tous les endroits, donc je pense que c'est un endroit où on peut rêver de plein de choses, dont une sexualité collective libérée. Voilà. Après, il n'y a pas d'obligation pour personne, et voilà. Donc c'est possible, et en même temps rien n'est obligatoire. Et il y a des fois le mythe aussi que les universités d'été sont avant tout
un super bon plan de 8 jours.
Donc, voilà, c'est pas que ça. Il faut penser que c'est pas toujours.
On en sait quelque chose.
Et puis il y a d'autres endroits alternatifs qui existent. Je pense à ce qui s'est, il y a les rencontres de Bagdam pour non mixtes lesbiennes qui sont tenues il n'y a pas longtemps, sont aussi des lieux qui sont dans le même état d'esprit que les rencontres lesbiques et transqueer. Donc il y a quelques espaces alternatifs ou queer option, mais en France de manière régulière avec ce qui se fait à Bagdam, c'est sans doute un des endroits alternatifs les plus intéressants. C'est prétentieux, mais je crois.
Oui, je sais pas, je connais pas suffisamment effectivement
les libérés.
Oui, voilà.
Bah, personne,
on n'est pas
en
obligé
fait,
d'avoir
tout...
du sexe aux UH non,
non.
plus. C'est
oui.
vrai que voilà,
non.
c'est. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent et qui sont apparemment très sérieuses, mais.
Non, je demandais ça parce que c'est souvent la troisième question qui vient quand les gens demandent des choses sur les UH. Au bout de trois questions, c'est alors où est-ce qu'on baise ?
On baise ou pas, comme on veut.
D'accord. C'est bien, on a le choix.
Sinon,
sinon, on fait à manger pour les autres pendant ce temps-là. Et les cuisines solidaires pour s'occuper.
Les objectifs pour cette année. Vos objectifs pour cette année.
Que les UH soient réussis. Ouais, et vraiment être autogérés.
Voilà. Et vraiment autogérés, ce serait ça le mieux.
Ouais. 3500 participants.
Non, non, ça non. c'est.
On a limité le nombre de participantes et participants à 500, je crois. Parce que au-delà, ça devient une gestion impossible. L'ambiance n'est plus du tout la même. C'est un peu l'industrie.
Ouais.
Et voilà. Enfin, pour nous, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, effectivement, c'est limité à 500.
On aime bien le côté centre aéré, nous. Le truc comme ça qui se fait un peu aussi avec les moyens du bord, c'est pas mal.
Et est-ce que vous avez des recommandations, des conseils aux futures adhérentes de cette année? Des trucs à pas oublier, parce que moi je sais que la première fois où j'étais venu, on m'avait dit oui, surtout n'oublie pas un rouleau de PQ dans ton sac,
ah ouais,
parce que des fois ça manque aux toilettes,
ah oui,
donc comme ça.
C'est-à-dire que ça manque aux toilettes si personne ne s'occupe d'aller réapprovisionner les toilettes, mais on a assez de PQ pour toute la semaine. Non, ce qu'il faut, s'il y avait une chose à amener outre le petit matériel de chacune, c'est de penser que les cuisines collectives, elles sont livrées brutes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement deux plaques, mais il n'y a pas d'assiette, pas de verre, pas de couvert. Et nous, on a évidemment pas ça en stock, donc on a un peu de gros saladiers, mais c'est vrai que c'est bien pour celles qui veulent participer ou qu'envisagent participer aux cuisines collectives d'avoir déjà un petit matériel, quoi, voilà.
Oui, ça sert toujours des poêles, des rice cookers.
Ouais, même des saladiers. Grands plats et tout. Et puis au niveau vestimentaire,
les tongs.
On peut apporter tout ce qu'on veut, donc on peut porter tout ce qu'on veut aux UH. Et c'est vrai que moi, la première année, quand j'y suis allée, j'avais pas pensé, enfin, j'étais encore vachement dans la norme et la peur du regard des autres. Et aux UH, on peut être soi-même, donc c'est assez fort. Et vestimentairement parlant, c'est possible aussi.
Oui.
Donc apporter à la fois vos mini-jupes, vos talons hauts, vos shorts.
C'est vrai que moi, ça m'a fait, pour parler un peu perso quand même, moi, ça m'avait fait un choc quand j'étais revenu de mes premières UH parce que je me baladais avec des tongs, avec des plumes sur le bout des tongs et puis une fleur dans les cheveux. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, oh, t'étais toi-même là-bas, ici, c'est pas possible. Ça a été un choc, ça a été très difficile. Faut prévenir les gens qu'il y a un choc, hein. Faut prévoir des vacances avec des gens avec qui tu t'entends bien après. Bref, il y a toujours un atterrissage assez douloureux si tu reviens direct et tu te prends travail le lendemain.
Le retour a été Roland est assez violent, effectivement.
Oui. Le retour général est difficile, surtout pour les premières. Parce que moi, je suis pas redescendu de ma dernière, là, l'été dernier, je suis pas redescendu. Je fais chier tout le monde avec, demander aux comiques qui sont là, sans arrêt avec les UH. Donc, rappelons votre site web où on peut trouver toutes les infos, www.ueh.org.
Voilà.
UEH. Oui, UEH. La thématique du colloque du samedi.
Ce sera la thématique le samedi, ouais, 22 juillet, qui aura lieu au siège du conseil régional, qui nous invite dans son siège. Ce sera les discriminations des LGBT dans le monde professionnel. Et l'idée, c'est pas d'avoir un colloque, un énième colloque avec tous les spécialistes qui viennent nous expliquer ce qui se passe, mais d'avoir à la fois des chercheurs qui seront présents, mais aussi des témoignages, et essayer de dégager ensemble collectivement quelques pistes d'action, de projets, en tout cas, qui pourraient être menées sur à court et moyen terme dans ce domaine. Donc que ce soit un colloque un peu opérationnel, pardon, et pas simplement analyse de la situation, et on en ressort et on n'a plus qu'à rentrer chez soi pour pleurer.
Et sinon, c'est bon ? Vous voulez rajouter quelque chose ?
Le colloque en fait a lieu donc en milieu de semaine et à Marseille, parce que c'est dans un souci de sortir un moment de l'UMINI, enfin de l'école des beaux-arts de l'UMINI, et d'avoir un moment de visibilité au sein de Marseille et au conseil général en particulier, au conseil régional pardon. Ça permet dans un lieu qui peut paraître très institutionnel, mais d'avoir une visibilité LGBT, et c'est assez fort. En fait, ça a beaucoup de sens aussi pour toutes les personnes qui viennent de pays où l'homosexualité est bafouée, n'est pas du tout reconnue. Et voilà, pour eux, c'est un lieu. Puis c'est aussi notre, un de nos supports pour avoir des subventions. Il faut bien le dire, mais parce que les UH essaient de concilier le côté institutionnel par certains aspects, et puis plus libertaire ou autogéré.
S'il y a une balade sur le port après la conférence,
ça c'est à l'étude. On va voir ce qu'on fait après la conférence. On ne sait pas encore si il y a une manif, un rassemblement. Enfin, tout ça, ça se construit. Ce qui est sûr, ce qui est assez compliqué, c'est que ça doit se construire pour le coup collectivement. C'est compliqué pour l'équipe du conseil de décider que tout le monde ira en manifestation. Donc, on va essayer, comme le disait Laurence, comme c'est pas dans les premiers jours, on va essayer de construire ensemble effectivement une visibilité après dans les rues de Marseille.
Oui, parce que traditionnellement, à chaque fois, il y a une manif sur Marseille.
Oui, mais elle se prépare en fait. Donc, si vous avez des idées, elles sont bienvenues.
Appelez-nous.
Vous pouvez arriver aussi avec des idées, avec du matériel.
Il y a un atelier banderole.
Après, voilà, un atelier. Enfin, et on parlait tout à l'heure de la façon dont on peut construire un atelier aux UH. On peut aussi arriver aux UH et dire, moi, j'aimerais bien maintenant, animer quelque chose autour du rassemblement ou du happening ou que sais-je, à la suite du colloque.
Et une dernière chose, une organisation qu'on a voulu essayer de pousser ces deux dernières années, c'est aussi une plus grande visibilité des trans, qui sont souvent là aussi invisibilisés dans la communauté. Et donc il y avait eu un gros travail qui a été fait l'année dernière avec participation de pas mal d'ateliers, essentiellement l'année dernière de M2F, et on essaye cette année qu'il y ait aussi des F2M qui soient là, et qui est vraiment que la communauté, enfin que les trans en général, quelle que soit leur autodéfinition, soient présentes.
Oui, non, vas-y.
Et puissent participer pleinement aux UH.
Ouais, d'accord. On a le temps, vas-y.
On a le temps.
Oui, on prend le temps.
Non, parce qu'aussi, de toute façon, on ne peut pas tout dire. Et puis, principe des UH, c'est de repartir frustré parce qu'on n'a pas pu tout voir et tout faire. Et
parce qu'on a trop fait la cuisine.
Décidément, ça t'a traumatisé. Mais il y a aussi un cycle cinéma qui est très, très important et très riche, qui est animé en particulier par Florence Fradellesi. Et voilà, ça apporte une très grande richesse aux UH, c'est passionnant.
Ok.
C'est tout ?
Une réflexion ? J'ai encore une question. Est-ce que vous avez des idées d'assos ou de personnes qui vont faire des ateliers ? Vous avez déjà des
Alors, il y a Mon Corps est un champ de bataille. C'est une association, un groupe de personnes, de femmes hétéros et lesbiennes sur Lyon, et elles vont, donc ça je peux vous dire, et puis je trouve que c'est super qu'elles puissent venir, elles vont exposer un travail qu'elles ont fait autour d'un bouquin qui s'appelle donc Mon corps est un champ de bataille aux éditions La Colère, qui parle du corps des femmes et de la façon dont les femmes vivent leur corps. Donc ça donnera lieu à la fois à une exposition et à un atelier. ça en particulier.
Ok. Bon, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni pub. Soutenez-nous en achetant votre carte d'auditeur chez Publico, 145 rue Amelot. Merci. Vous pouvez aussi nous téléphoner au studio 01 43 71 94.
C'est trop tard.
Mais maintenant, c'est tard. Personne ne m'a appelé. Donc maintenant, on va lancer une petite chronique quand même, même si on a changé les formats, les repères et tout ça. Je me suis quand même cassé le cul et ce matin j'ai enregistré une chronique sur la guerre des PD de Copy, qui est un livre que j'adore. Et donc
on est au combienième épisode?
C'est le troisième épisode. Où là on parle d'une baise. Je lis un extrait sur une baise de Copy avec Koncheka Yodomundo, qui est le personnage récurrent du.
Et la musique est signée de qui cette fois?
C'est toujours Ludwig van Beethoven. Mais promis, faut écouter jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je promets qu'on change, parce que j'en peux plus.
C'est l'heure de la chronique fleuve, littéraire, politique et folle, sur la guerre des PD, de Monsieur Katia. Branche ton vibro et assieds-toi. Voici comme promis, la lecture de l'extrait sur la baise de Copy avec Koncheka Yodomundo, avec une savante définition du plaisir. Profitez bien. Je somnolais sur le Chesterfield quand quelque chose me chatouillait l'oreille. Un insecte, certainement. J'éteignis et je me dirigeais vers la chambre. Dans la pénombre, je reconnus d'abord la cape en plume de paon. Elle couvrait le lit en entier. Koncheka Yodomundo faisait semblant de dormir, se suçant le pouce. Elle ne pouvait en effet avoir plus de 14 ans. Elle bâilla et se retourna, mettant en évidence son cul divin et laissant dépasser la bite entre les cuisses. Je retournai sur la pointe des pieds chercher le revolver que m'avait prêté Jean-Jacques, et que j'avais caché dans un tiroir dans le bureau. Je fouillais dans le tiroir, je ne le retrouvais plus. Il était sur une étagère déchargée, les cibles à la côté. Je le rechargeais et je le mis dans la poche de mon peignoir. Je m'assurais que personne ne se cachait dans l'entrée, ni dans l'armoire à balai. Je revins dans la chambre à coucher. Elle se caressait l'énorme bite des deux mains. Elle me regardait avec un sourire qui se voulait pervers, d'une naïveté touchante. J'allumais le lustre, elle se cacha les yeux et poussa un cri. Oh, oh, pas de lumière, je vous plaît, j'ai pris de l'acide. J'éteignis, ne laissant d'allumer que le couloir. Elle sanglotait comme un bébé. Je compris qu'elle avait pris une drogue très forte. J'allus lui chercher un verre de lait. Elle but comme si elle tétait, s'agrippant à ma taille. Son odeur m'enivra. Je lui caressais l'épaule tout en déposant le verre vide sur la table de chevet. Elle enfouit la tête dans mon peignoir et mit non loin de larmes les poils de la poitrine. Je lui léchais les larmes délicieusement salées, puis je descendis jusqu'au sein que je mordillais. Elle me poussa la tête jusqu'à la bite, je n'en avais pas l'habitude. Elle m'introduisit le gland dans la bouche, je m'étranglais et me mit à tousser. Elle me souleva par les cheveux et elle colla ses lèvres aux miennes. J'étais au comble de l'excitation.
« Va chercher de la moutarde !»
me murmura-t-elle. J'allais chercher un pot de moutarde dans le frigidaire. Elle m'en enduit bien l'anus avant de m'introduire. Ce n'était pas la première fois que je me faisais enculer, mais jamais par une bite de cette taille. Elle savait s'y prendre pour ses 14 ans. Et je peux dire que jamais, jamais de ma vie, je n'ai éprouvé un tel plaisir. Le plaisir, c'est comme une naissance, ou comme la mort. Cela ne nous arrive qu'une seule fois, mais la naissance, on l'oublie, la mort, on l'ignore. Le plaisir, c'est ce seul instant d'extase dont le souvenir ou l'illusion vous tient en vie. Ça n'arrive qu'une seule fois, mais l'instant d'existence, avant et après, n'en est qu'une réflexion. C'est ridicule, mais c'est comme ça, aussi bien pour les PD que pour les autres. On croit aimer une seule personne, mais en fait, on n'aime que ces flashs de plaisir. Peut-être comme les catholiques aiment les crucifixions du Christ. Et si je devais jeter une pierre sur les masos, je ne serais pas le premier.
La suite le mois prochain.
Avec un autre fond sonore, parce que Ludwig von commence à en avoir ras le cul. Promis. Bisous.
Vous êtes complètement mégalo.
Bah écoute, bah je suis la seule à faire des chroniques. Oh, ah mais... bah oui, parce que nous avons changé de format.
Eh oui, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est une nouvelle formule que vous avez essayé ce soir.
C'est la formule, il n'y a pas de chronique parce que de toute façon personne n'a l'énergie pour en faire. Et on interviewe...
À partir de maintenant, on thématise.
Voilà.
Un mois, un sujet.
Voilà. Un mois qu'on traite en fond avec des invités.
Bien à fond.
Oui, oui ben merci Léo.
En régie, elle s'éclate.
Oui, disons. Et le mois prochain...
Ah, le mois prochain, on va faire un spécial Barbara. On va inviter Barbara.
Voilà, elle sera avec nous dans le studio.
Avec notre spécialiste international des chanteuses mortes. C'est Gilou.
Gilou.
Tout à fait, elle va revenir. Donc, je voulais vous signaler avant qu'on rende l'antenne que notre amie Madame Raymonde faisait un concert, enfin faisait une représentation.
Quand ?
Le samedi 20 mai 2006 à 20h30.
Où ?
Au théâtre du Passage vers les étoiles. C'est 17 Cité Jolie dans le 11e. Réservation au 01 48 24 40 61 ou Fnac.
Voilà, vous pouvez vous inscrire aux UH à partir du 16 mai sur Internet.
Voilà. Et bah sinon, voilà, j'avais ça. Bah c'est bon, on peut dire au revoir.
Non.
Tu vas nous passer quoi comme morceau, Léo?
Je passe rien du tout, c'est fini.
Je passe rien du tout.
Non,
bah,
j'ai pas envie.
Bah on a le temps, il est 26.
J'ai pas envie.
Ah, de me dire que c'est fini.
Mais c'est Mind Prince de Tocotronic, voilà.
Très bien. On sait pas ce que c'est, ce truc.
On sait pas ce que c'est, on s'en fout.
Complètement défoncé là-bas.
C'est du rock'n'roll allemand.
C'est du rock'n'roll allemand?
Oui. Parce que demain je pars à Berlin, alors tout est en allemand aujourd'hui.
D'accord. Donc l'émission ne sera pas mise en ligne dans le week-end.
Peut-être, si j'ai un accès à Internet, qui sait. Je prends mon laptop en tout cas, donc.
D'accord.
C'est bien. Eh bien, au mois prochain.
Ben oui. Gros bisous. À bientôt.
Bisous.
Ciao.
Le peuple, qu'est-ce que c'est, le peuple? Des plombiers et des boniches. Alors s'il faut tenir compte de l'opinion du peuple pour gouverner maintenant.
Der unser Bruder ist und Feind und der uns jeden Tag erscheint, der unsere Stimme in sich hört. Er gehört uns ganz und gar. Feinen Menschen muss man geben, was sie wünschen, es ist eben eine Pflicht. Nichts ist wichtiger als die. Es ist für den, der uns begleitet, der wie ein Geist neben uns schreitet, der sich uns anschmiegt und uns hält, als wär es ein Schatten unserer selbst, der unsere Stimme in sich hört und der sich leise selbst zerstört. Feinen Menschen muss man geben, was sie wünschen, es ist eben eine Pflicht. Nichts ist wichtiger als dies. Mein Prinz, gib unserem Leben Sinn. Mein Prinz, wir geben uns dir hin. Es ist für den, der uns begleitet, dessen Herz sich ständig weitet, der sich uns ganz und gar verpflichtet, wenn sich um uns die Luft verdichtet, der unsere Stimme in sich hört und der sich leise selbst zerstört. Für die Wahrheit, das Unendliche, die beständige Gefahr für
was wir wünschen, es ist eben eine Pflicht. Nichts ist wichtiger als dies, weinen Menschen muss man geben, was sie wünschen, es ist eben eine Pflicht. Nichts ist wichtiger als dies. Mein Prinz, gib uns Lebenssinn. Mein Prinz.